Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Avec le nouveau traité franco-allemand, Paris et Berlin s'engagent à faire converger leurs économies et leurs modèles sociaux. Nous irons à Aix-la-Chapelle dans un instant. En Europe, les multinationales devraient payer 23% d'impôts. Elles n'en payent que 15% grâce à l'optimisation fiscale. C'est ce que révèle un rapport du groupe des Verts au Parlement européen. Le président russe recevait son homologue japonais à Moscou, mais à l'issue de cette rencontre, il déclare qu'il y a encore du travail avant la signature d'un traité de paix. Enfin, le nombre d'homicides atteint un nouveau record au Mexique. L'augmentation est de 15% sur un an, précision à venir d'Olivier Poujade. 56 ans après Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont signé un nouveau traité franco-allemand à Aix-la-Chapelle. Les deux pays promettent d'approfondir leur coopération en matière de politique étrangère, de défense extérieure et intérieure. Et au-delà des grands principes, ils listent 15 projets prioritaires illustrant cette coopération accrue. Ludovic Piétenu, vous avez écouté la chancelière allemande et le président français.
56 ans que les ennemis héréditaires sont devenus des amis, ce traité doit permettre d'aller plus loin que la réconciliation et les quelques initiatives qui existent déjà entre les deux pays. En vérité, tout reste à faire, met en garde la chancelière allemande Angela Merkel.
Je sais l'inertie parfois de nos réponses aux nouveaux défis. Je sais l'obstination qui conduit à l'ajournement de décisions. Combien de fois on entend dire « aujourd'hui ce n'est pas possible ». Ce qui sera déterminant, c'est de savoir si derrière ce traité, il y a une vraie volonté de lui donner vie et substance.
Le franco-allemand peut donc aller beaucoup plus loin. Emmanuel Macron s'engage à donner vie à ce traité, mais s'agace contre ceux qui critiquent en permanence le pas de deux entre Paris et Berlin.
Ceux qui oublient la valeur de la réconciliation franco-allemande se rendent complices des crimes du passé. Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal à notre histoire et à nos peuples. En voulant faire bégayer nos histoires.
Les deux dirigeants ne cherchent pas à cacher les divergences, mais ils préfèrent insister sur ce qui les rassemble, convaincus qu'un couple franco-allemand aux vues les plus proches possibles peut relancer l'intégralité du projet européen à un moment où ils doutent sans doute le plus depuis sa création.
Marine Le Pen demande la saisine du Conseil constitutionnel sur ce nouveau traité. La présidente du Rassemblement national considère que ce texte est attentatoire à la souveraineté des États. Si la France et l'Allemagne ont à cœur de montrer leur rapprochement, les relations sont à l'inverse de plus en plus crispées entre Paris et Rome. Jour après jour, la coalition en pouvoir en Italie lance des piques contre l'exécutif français. Pour Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord, qui a relancé encore les hostilités aujourd'hui, Emmanuel Macron est l'ennemi numéro un en vue des élections européennes. La correspondance d'Antonino Gallofaro à Rome.
Voilà des mois que Matteo Salvini s'en prend à Emmanuel Macron, l'ennemi juré en Europe. Et plus les élections européennes de mai approchent, plus le leader de la Ligue, le parti d'extrême droite au pouvoir, s'en prend au président français. Mais pour celui qui est aussi ministre de l'Intérieur, Paris n'a aucune raison de s'énerver.
La France n'a rien à dire, vu que ces derniers mois, ces dernières années, elle a repoussé des dizaines de milliers de migrants à la frontière avec 20 000, y compris des femmes et des enfants, en ramenant certains de nuit dans les forêts piémontaises, les laissant là-bas comme s'il s'agissait d'objets, de bêtes. Donc, je n'accepte aucune leçon d'humanité de la part de Macron.
Matteo Salvini est en interview à la télévision. Aujourd'hui, il donne raison à son collègue Luigi Di Maio du mouvement 5 étoiles, également au pouvoir, qui a accusé la France de néocolonialisme et donc responsable de la crise migratoire.
Il y a des personnes qui sont en Afrique non pas pour créer du développement, mais pour soustraire les richesses de ces peuples, de ce continent. En Libye, la France n'a aucun intérêt à stabiliser la situation, probablement parce qu'elle a des intérêts pétroliers opposés aux Italiens.
Ligue et Mouvement 5 étoiles, parti populiste et anti-système, sont au pouvoir depuis l'été dernier. Ils jouent désormais sur deux fronts et sont donc restés en perpétuelle campagne électorale.
On atteint un niveau de ridicule peut-être jamais égalé par ce quinquennat, déclare le député Les Républicains Éric Ciotti. Comme lui, une bonne partie de l'opposition critique et dénigre la décision de Marlène Schiappa de co-animer une émission avec Cyril Hanouna vendredi sur M6 dans le cadre du Grand Débat National. Mais la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes assume sa venue dans l'émission Touche pas à mon poste, pourtant épinglée à plusieurs reprises par le CSA, notamment pour avoir véhiculé des préjugés sexistes. Marlène Schiappa explique qu'elle ne vient pas pour faire le show, mais pour essayer d'attirer vers le grand débat un public qui n'y est pas forcément sensible au premier abord.
Moi, je crois qu'en 2019, on ne peut pas faire de la politique avec les mêmes codes que ceux qui étaient utilisés dans les années 90. Et moi, ce que je constate, c'est que depuis le mois de novembre, Cyril Hanouna reçoit des gilets jaunes. Il a fait partie des premiers à percevoir que ce serait un mouvement qui allait durer. Nous, et moi j'étais la première à dire au mois de novembre, ça va s'essouffler rapidement. En fait, non, on a eu tort et lui a eu raison là-dessus. Donc je crois qu'il faut aussi avoir l'humilité de le reconnaître et d'aller au dialogue. Je pense qu'il n'y a pas d'un côté des citoyens qui seraient dignes de débat et de l'autre, ceux qui regardent les émissions de Cyril Hanouna, qui seraient indignes de débattre, qui devraient être exclus de ce grand débat. Et ce sont pour la plupart des gens qui ne regardent pas d'émissions politiques, qui n'écoutent pas France Culture, qui ne vont pas avoir l'information de comment le grand débat national s'organise. Donc mon but, c'est de démystifier, de désacraliser ce grand débat pour leur donner envie d'y participer et pour les ramener vers le débat démocratique. Moi, je crois qu'il est temps de réinventer justement les codes de la gouvernance. Nous sommes des gens qui avons besoin d'être au contact des citoyennes et des citoyens, que ce soit dans des débats comme je le fais régulièrement ou que ce soit avec les gens qui regardent l'émission de Cyril Hanouna sur son plateau télévision. Et si on arrive à écouter les demandes des gens par le plus de canaux possible, c'est ça qui nous permettra d'avoir un panel vraiment représentatif.
Marlène Schiappa répondait à Rosalie Lafarge. Emmanuel Macron, lui, reste plus traditionnel. Le président effectuera jeudi son troisième déplacement consacré au grand débat. Il se rendra dans la Drôme et échangera le temps d'un déjeuner avec des élus du département. Le ministre de la Ville et du Logement est descendu à Marseille pour la troisième fois depuis l'effondrement de deux immeubles rue d'Aubagne le 5 novembre dernier. 1400 personnes doivent encore être relogées. Le gouvernement veut leur montrer qu'il ne les oublie pas. Et au-delà des travaux de réhabilitation d'urgence, Julien de Normandie juge nécessaire de requalifier en profondeur le grand centre-ville de Marseille. Le reportage d'Olivier Martoc.
Julien de Normandie a passé 24 heures à Marseille. Il a rencontré tous les acteurs concernés par le dossier, y compris les associations qui représentent les sinistrés. Constat, deux mois et demi après le drame, il reste encore beaucoup à faire.
Aujourd'hui, la situation, elle reste préoccupante. C'est plus de 1300 personnes qui ont été délogées et qui sont toujours dans des logements temporaires. Ils n'ont pas pu regagner leur logement ou ils n'ont pas encore eu des logements pérennes qui leur ont été proposés. Et donc, aujourd'hui, quand vous mobilisez les propriétaires de logements qui sont vacants ici à Marseille, eh ben c'est une énorme avancée parce que effectivement, c'est 75 logements qui vont pouvoir être fléchés vers celles et ceux qui sont sinistrés. C'est pas suffisant et on va continuer et cette mobilisation, moi j'y vais avec beaucoup de détermination pour rappeler y compris personnellement ces propriétaires de grandes structures qui possèdent de nombreux logements.
Principe de précaution oblige, 234 immeubles ont été évacués jusqu'à présent sur l'ensemble de la ville. Anaïs Bérubé qui habitait le Panier attend depuis deux mois l'arrêté de péril et le passage de l'expert.
On se reloge par nos propres moyens, donc on prend un Airbnb, on n'a pas d'autre solution. On n'est pas chez nous, on n'a rien, on n'a plus notre vie, puis on attend au jour le jour, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si un jour on pourra retourner chez nous. Non, c'est dur.
Côté statistique, il y en a qui font mal, les trois quarts des personnes évacuées n'auraient pas encore retrouvé de logement.
Olivier Martoc à Marseille pour France Culture. Le Forum économique mondial s'est ouvert aujourd'hui à Davos, un forum boudé cette année par Donald Trump, Emmanuel Macron et Theresa May qui estiment tous les trois avoir des dossiers plus urgents à gérer chez eux. En revanche, le nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, a fait le déplacement en Suisse et il s'efforce de séduire investisseurs et industriels. Le nouveau chef d'État assure que sous sa présidence, le Brésil ouvrira son économie, lancera un programme de privatisation, réduira les taxes et simplifiera les régimes fiscaux. Régimes fiscaux que les multinationales arrive souvent à contourner. En Europe, où elle devrait payer 23% d'impôts en moyenne, elle n'en paye en réalité que 15%. C'est ce que révèle une nouvelle étude publiée par le groupe des Verts au Parlement européen, Johanna Hochstein.
C'est au Luxembourg que l'écart entre le taux d'imposition officiel et le taux d'imposition réel des entreprises est le plus grand. Sur le papier, les multinationales fiscalisées au Grand-Duché devraient payer 29% d'impôts. En réalité, elles n'en paient que 2%. En France, le taux d'imposition des sociétés est de 33%, mais dans la pratique, les grandes entreprises parviennent à payer deux fois moins d'impôts. C'est ce que révèle le rapport du groupe des Verts au Parlement européen. Autre élément de l'étude, plus l'entreprise est grande, moins elle paie d'impôts grâce à des pratiques d'optimisation fiscale. Les multinationales ont davantage de moyens pour mettre en place des schémas pour éluder l'impôt que les PME, expliquent les Verts européens. Et de poursuivre, rien d'illégal à ces pratiques, mais la sous-imposition des multinationales, écrivent-ils, contribue à accroître le sentiment d'injustice fiscale très présent chez les gilets jaunes en France notamment. Actuellement, plusieurs textes sont en discussion au niveau européen pour que la taxation des entreprises reflète mieux la réalité réalité de leur activité économique. Mais des pays comme l'Irlande ou le Luxembourg bloquent l'adoption de ces nouvelles directives, ces pays profitant d'une taxation avantageuse. Or, sur les dossiers fiscaux, il faut l'unanimité des 28 pour prendre une décision.
Pour la signature d'un traité de paix entre la Russie et le Japon, il faudra patienter encore un peu et sûrement attendre encore davantage avant la rétrocession à Tokyo d'une partie de l'archipel des Kouriles, îlot situé à l'extrême sud-est de la Russie. Vladimir Poutine recevait aujourd'hui Shinzo Abe à Moscou pour tenter de faire avancer ce double dossier, mais la Russie n'est pas prête à se séparer d'une partie même infime de son territoire, nous dit notre correspondant en Russie, Claude Brouillot.
« Il reste encore beaucoup à faire », a déclaré Vladimir Poutine au sortir de 3 heures d'entretien avec Shinzo Abe. Pour l'instant, ce que l'on sait concrètement, c'est qu'il y aurait sans doute encore une autre entrevue entre le numéro 1 russe et son homologue japonais, sans doute au printemps prochain, autant d'ailleurs pour essayer d'avancer sur la signature de ce fameux traité de paix que pour créer les conditions de la venue de Vladimir Poutine au Japon en juin prochain à l'occasion du G20. Et si on n'avance pas davantage en réalité sur ce traité, on avancera évidemment encore moins sur la question des Kouriles du Sud. Ici à Moscou, la journée a été marquée par une nouvelle manifestation d'opposants à la rétrocession des îles au Japon. Une dizaine de personnes a été arrêtées près de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. C'est la seconde fois en 48 heures que des militants d'extrême droite ou d'extrême gauche d'ailleurs dénoncent ces pourparlers au motif que le territoire souverain de la Russie n'est pas négociable, surtout lorsqu'il a été acquis après la Deuxième Guerre mondiale qui a fait plus de 30 millions de morts ici. Enfin reste la question économique. Le Kremlin essaie de se trouver de plus en plus de débouchés avec l'Asie du Sud-Est. C'est largement le cas avec la Chine. Mais le Japon aussi a des arguments, quand bien même il a soutenu les sanctions occidentales contre la Russie. D'où cette référence de Vladimir Poutine en conférence de presse à une discussion positive avec Shinzo Abe, histoire sur ce plan-là de ne pas insulter l'avenir.
Alors revenons un instant sur ce différend territorial sur les îles Kouriles. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
Un différend qui bloque depuis des décennies la conclusion d'un traité de paix entre la Russie et le Japon.
Oui, ce sont 4 petits îlots très peu peuplés, mais comme toujours dans ces questions de souveraineté territoriale, la taille importe peu. D'un point de vue stratégique, économique, politique, historique, l'archipel des Kouriles est au centre d'une dispute vieille même de plusieurs siècles entre les deux voisins qui n'ont de fait pas de frontières reconnues dans le Pacifique Nord. Et si Russie et Japon n'ont toujours pas signé de paix après la Seconde Guerre mondiale, c'est à cause de cette dispute sur les Kouriles. Arrêtons-nous sur les derniers épisodes d'une guerre qui remonte au XVIIe siècle. Les Kouriles annexées par la Russie en 1945, mais toujours revendiquées par le Japon. Un règlement aurait pu voir le jour en 1956, lorsque les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques et que l'Union soviétique s'est dite prête à céder 2 des 4 îles. Mais le traité de sécurité signé entre le Japon et les États-Unis 4 ans plus tard a eu raison de la bonne volonté de Moscou. Si tant est que de bonne volonté il puisse être question dans un différend qui mobilise les opinions publiques des deux parties. Selon un sondage de l'Institut indépendant Levada le mois dernier, les 3/4 des Russes sont opposés à la cession des îles, tandis qu'au Japon le nationaliste Shinzo Abe ne peut guère se permettre de sembler céder à son voisin, d'autant que quelques intérêts économiques s'y mêlent. Les Kouriles, ce sont aussi des eaux très poissonneuses qui seraient riches en hydrocarbures. Itourou, la plus septentrionale, recèlerait même d'uranium, un métal rare. Et puis il s'agit d'une réserve d'une biodiversité marine et ornithologique incomparable. Sans oublier pour les Russes l'aspect stratégique, le chapelet des Kouriles commandant un accès précieux vers l'océan Pacifique. Autant dire que de nombreux entretiens bilatéraux seront encore nécessaires pour espérer une percée.
Marie-Pierre Véraud. Au Mexique, la spirale de violence ne cesse d'augmenter depuis 2006. En 2018, 33 341 homicides ont été recensés, soit une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Et le meurtre de Raphaël Mouroua, rédacteur en chef d'une radio locale, fait encore la une de l'actualité aujourd'hui. L'ancien président Felipe Calderón avait déclaré la guerre au narcotrafic. Le nouveau chef de l'État fait de la lutte contre le crime la priorité de son mandat. Andrés Manuel López Obrador hérite d'une situation inédite en termes de violence au Mexique. Olivier Poujade.
L'arrivée au pouvoir d'André Manuel López Obrador a coïncidé avec un pic de violence jamais atteint au Mexique. Décembre 2018 est aujourd'hui le mois le plus meurtrier de l'histoire du pays. 2842 homicides, un chiffre en hausse de 10% par rapport à décembre 2017, plus de 90 meurtres par jour. Dans certaines régions, les chiffres dépassent parfois ceux de pays en guerre comme la Syrie. Des États comme la Basse-Californie ou le Guerrero restent parmi les régions les moins sûres. D'autres, comme l'État de Colima, illustrent la diversité des types de crimes commis sur le territoire. C'est ce qu'observe Maria Teresa Martinez, spécialiste mexicaine de la violence et doctorante à Sciences Po.
Le cas de Colima est assez éloquent car c'est la première fois que cet État atteint un tel taux. C'est le résultat d'une diversification des acteurs de la violence, qui ne sont pas seulement des narcotrafiquants, mais aussi d'autres organisations, comme par exemple les voleurs de combustible. Donc le crime a aujourd'hui de plus en plus de visages différents. Il faut analyser tout cela à l'échelle régionale, locale et non pas nationale.
Des origines du crime diverses, le narcotrafic, la contrebande d'essence, mais également dans certaines zones, le caciquisme, ces leaders politiques locaux qui disposent de polices privées pour contrôler l'électorat, ou encore les féminicides. Les racines de cette violence sont donc multiples et les problématiques différentes selon les localités. Ce qui conduit les experts à s'interroger aussi sur le cœur du plan annoncé par le nouveau président AMLO pour lutter contre le crime. La création d'une garde nationale placée sous la direction des forces armées, une option résolument plus répressive mais qui ne prévoit pas de renforcer ni même d'assainir les unités de police au niveau local.
Les militants pro-climat suivent de très près le procès qui vient de s'ouvrir à Dublin. Le gouvernement irlandais est poursuivi en justice pour son inaction face à l'urgence climatique. L'association à l'origine des poursuites est soutenue par 15 000 citoyens irlandais et le procès préfigure ce qui pourrait se passer en France dans les mois qui viennent, Louise Baudet.
Oui, 15 000 citoyens en Irlande, potentiellement 2 millions en France. L'affaire du siècle, cette pétition lancée mi-décembre a recueilli à ce jour 2 100 000 signatures. Doit suivre un dépôt de plainte dans 2 à 3 mois à l'image du Sénat. Scénario irlandais. L'Irlande qui fait partie des plus mauvais élèves de l'Union européenne en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Marie Toussaint est la fondatrice de Notre Affaire à tous, l'une des 4 ONG à l'origine de la pétition lancée en France.
On a l'image d'une Irlande verdoyante, où il y a beaucoup d'espaces verts, de très beaux paysages, etc. Mais le gouvernement irlandais n'a vraiment rien fait pour le climat, ou en tout cas pas assez ces dernières années. Est-ce que l'association qui a porté plainte et ses 15 000 citoyens qui la soutiennent espèrent, c'est que le juge demande à l'État irlandais de réviser ses lois climatiques, de sorte à augmenter ses objectifs et à respecter le climat?
Alors l'Irlande a bien présenté un plan national en juillet 2017, mais il ne lui permettra pas de respecter ses engagements pris à Paris fin 2015. Et la plupart des pays signataires sont dans la même situation. Pour Marie Toussaint, il faut donc créer une jurisprudence internationale indépendamment des belles paroles gouvernementales.
Ce qu'on observe, c'est que la discussion entre les États n'est pas contraignante et ne suffit pas à véritablement protéger le climat. Et donc effectivement, en se mettant en lien les uns avec les autres autour de la planète, en étant dans la solidarité, dans le contact permanent, on peut réussir à faire émerger cette jurisprudence contraignante pour la planète.
Alors le procès qui s'ouvre aujourd'hui doit durer 5 jours. Il n'est pas une première. Plusieurs dizaines d'actions en justice sont en cours contre des États. 3 ont pour leur abouti positivement aux Pays-Bas et au Pakistan en 2015 et en Colombie en 2018.
Louise Baudet, Barcelone paralysée par une grève illimitée des taxis. Les chauffeurs de la ville avaient demandé au gouvernement d'imposer que les réservations de VTC se fassent 24 heures avant la course. Insatisfaits de la réponse de l'exécutif catalan, ils étaient aujourd'hui environ 10 000 chauffeurs à bloquer la ville en gilet jaune, symbole emprunté aux protestations françaises. Le reportage à Barcelone de Mélanie Núñez.
Sur la Grande Via de Barcelone, l'une des artères principales, des dizaines de taxis jaunes et noirs bloquent la chaussée. Depuis 5 jours, des cortèges de milliers de chauffeurs, la plupart vêtus de gilets jaunes, paralysent la ville. Tito, l'un des porte-parole, résume leurs revendications.
Ici, c'est une artère où passent des milliers de voitures normalement. Nous voulons que le délai pour les réservations soit de 24 heures pour les VTC. Nous devons nous unir comme les gilets jaunes. Nous devons faire une révolution en Espagne comme en France. C'est un mouvement spontané. Il y a des porte-paroles comme moi, mais personne ne donne d'ordre. Aujourd'hui, il y a un problème avec les taxis. Mais si d'autres professions nous rejoignent, alors nous ne serons pas 10 000, mais 100 000.
Plusieurs chauffeurs VTC ont d'ailleurs été agressés, détaille José.
Il y a plusieurs chauffeurs de VTC qui ont traversé la foule. On a brisé les vitres de leur voiture et on leur a donné des coups de poing.
Au milieu de la Plaza Espagne, valise à la main, Julian, touriste polonais, ne sait pas comment rejoindre l'aéroport.
C'est incroyable, nous sommes restés 3 jours, c'était très compliqué, mais finalement c'est Uber qui gagnera.
En tête de cortège, Bernabé scande ce slogan « C'est puede, c'est possible ».
Si nous ne trouvons pas de solution, ce sera la guerre. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous ferons comme vous, les gilets jaunes. Nous avons déjà reçu le soutien de taxis français. Nous sommes en contact. Nous pouvons bloquer la frontière si c'est nécessaire.
Et s'il s'allie avec les gilets jaunes français, il pourrait ces prochains jours bloquer la frontière au Pertuis.
La météo, 29 départements sont en vigilance orange pour neige, verglas ou avalanche. Il neigera un peu partout demain. La neige sera abondante sur les Pyrénées. Il pleuvra sur le littoral atlantique et sur le pourtour méditerranéen. Le temps restera froid. Le matin, les petites gelées seront fréquentes à l'intérieur des terres. Près des rivages, il fera de 0 à 6 degrés du nord au sud. L'après-midi, pas plus de 0 à 4 dans le nord et dans l'est. 4 à 10 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.